Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon, bientôt ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Vous aimez lire? Eh bien, nous aimons vous parler de livres. C'est pour ça que cette émission à livre découvert existe et je suis très heureuse de l'animer. Je m'appelle Clotilde Seil et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues sur Canal M.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, nous recevons deux fois plutôt qu'une Éric de Belval. Éric de Belval, lecteur, peintre, quand je dis lecteur, c'est lecteur bénévole ici, peintre aussi, mais auteur aussi, écrivain. Alors il viendra en deux temps nous parler d'abord du livre d'un autre, en l'occurrence un livre de Michel Onfray. J'ai toujours l'habitude de dire Onfray, mais c'est Onfray, Le crépuscule d'une idole. On le retrouvera pour son livre à lui, celui qu'il a écrit et qu'il a lu, et ça s'appelle Incision. Et puis je reçois à l'émission quelqu'un, ça fait plusieurs mois que je travaille sur ce dossier-là et je suis très heureuse qu'elle ait accepté l'invitation. Mélanie Vince était avec nous, auteure québécoise, et tous ses livres ou presque ont été enregistrés au SQLA. Elle va venir nous en parler, ainsi que d'un autre choix, d'un livre qu'elle n'a pas écrit, un livre de Sylvain Trudel. Également à l'émission aujourd'hui, il y aura bien évidemment le classique de la semaine. J'ai choisi aujourd'hui de revisiter Pélagie la Charrette d'Antonine Maillet. Et puis, il y aura aussi un extrait d'un livre dont nous parlerons la semaine prochaine avec Michel Gélina. Ça s'appelle 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie. C'est de l'académicien François Cheng, et nous finirons bien évidemment par quelques rafales, non sans évoquer le prix Nobel de littérature 2014 qui a été attribué à Patrick Modiano. Nous irons voir ce qui est disponible de Monsieur Modiano dans nos bibliothèques audio.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Les livres audio, ils en mangent, soit parce qu'ils les lisent, soit parce qu'ils les écoutent, mais aussi parce qu'ils les lisent dans des cabines. Et j'ai demandé à Éric de Belval aujourd'hui de venir, je vous le disais au début, deux fois plutôt qu'une. Bonjour Éric.
Bonjour Clotilde.
Éric, vous êtes au Québec depuis quelques années.
3 ans maintenant.
Moins longtemps que moi. Moi, j'en ai 10 fois plus que vous.
Je vous rattraperai, Clotilde.
Et on vous présente comme un homme qui vit de sa plume et qui vit aussi du pinceau, parce que vous faites de la peinture aussi, vous exposez même souvent à Montréal, et vous écrivez donc. Et je vous ai invité parce que dans cette seconde partie de cette émission à livre découvert, vous allez nous parler d'un livre que vous avez écrit qui s'appelle Incision. Mais avant, vous m'avez dit, Clotilde, je veux venir parler d'un bouquin que je n'ai pas écrit mais qui a marqué ma vie. Présentez-nous ce livre.
Alors, c'est un livre de Michel Onfray qui s'appelle « Le crépuscule d'une idole ». Alors, le titre est un petit peu emprunté à Nietzsche qui avait écrit « Le crépuscule des idoles ». Et Nietzsche nous invitait à repousser un petit peu ce qui brillait peut-être un peu trop violemment sur le firmament des idées ou sur certains trônes littéraires ou politiques d'ailleurs. Et Michel Onfray s'est attaqué à une de ses idoles qui n'est personne d'autre que Sigmund Freud. Alors évidemment, c'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre et puis qui s'est bien vendu d'ailleurs, je crois plus de 500 000 exemplaires, mais qui a évidemment déclenché dans l'institution qu'est la psychanalyse et dans ses représentants que sont les psychanalystes aujourd'hui, des réactions extrêmement violentes, parfois même très exagérées.
Pourquoi ? Parce que l'inattaquable a été attaqué ?
Eh bien parce que tout simplement... Michel Onfray a déconstruit le mythe de Freud. Alors, qu'est-ce que c'est que le mythe de Freud ? Je dis en préambule que ce n'est pas un livre de dogmatique, un livre d'opinion. C'est un livre qui est d'abord une suite de faits. C'est un livre qui s'attache à démontrer, à partir de la réalité, à partir de ce qui s'est passé. Alors, où est-ce qu'il a été trouvé ces éléments ? Tout simplement dans la correspondance que Freud a échangée avec son ami Frisch et sur laquelle... Il s'épanche très très longuement sur sa pratique et là on y apprend des choses absolument stupéfiantes. Mais avant d'entrer peut-être oui, dans ce détail-là. Détail, oui. Michel Onfray tord le cou aussi à un certain nombre de choses, notamment des attributions qui sont faites à Freud, inventeur de l'inconscient, de la théorie psychanalytique, etc. Alors quand on creuse un peu, on s'aperçoit que déjà au 8e siècle en Grèce, il y avait un monsieur qui s'appelait Antiphon et qui demandait aux gens, selon rémunération, de leur raconter un peu ce qui n'allait pas bien et qui, à partir de ça, essayait de les aider. Donc on voit que, il n'y a rien de vraiment inventé. Mais à la limite, on pourrait dire que ça, c'est anecdotique. Il y a une chose que je trouve plus séduisante, en tout cas moi, elle me convainc beaucoup, c'est de dire arrêtez avec cette stupidité qui est le complexe d'Œdipe. Le complexe d'Œdipe, ça n'a aucun fondement scientifique. Mm-hmm. C'est une invention stupide et absurde à laquelle il ne faut surtout pas croire et qui ne repose sur rien. Et c'est absolument fascinant de voir comment tout le monde semble acquis à l'existence du complexe d'Œdipe. On va se demander si son enfant, son neveu, ou soi-même, avons bien passé les stades, etc. C'est de la foutaise.
Par rapport à la mère,
il y a mille développements.
Quand on évoque Œdipe, on parle
absolument,
d'abord...
Absolument, c'est le désir de tuer son père et le désir d'avoir des relations sexuelles avec sa mère. Après, ça s'étend, c'est des relations de couple, etc. Bon. Mais encore une fois, et Dieu sait qu'il semble difficile de donner à la psychanalyse le nom de science, c'est pas une science. Si on veut, c'est une science de l'approximation, une science humaine, un peu comme l'est l'économie, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de se chercher sans jamais donner des fondements comme peuvent le faire les sciences dures. Mais je crois que le fait de tordre le cou, il le fait de façon extrêmement convaincante dans ce livre, je vous invite à lire les longs passages qui sont consacrés au complexe d'Œdipe, c'est une bonne douche qu'on prend pour se laver un peu la tête, parce qu'on se dit, mais oui, moi j'y ai toujours cru, tiens, mais oui, mais c'est complètement absurde, ça ne repose sur rien. Et ce qui est intéressant à partir de cette déconstruction du complexe d'Œdipe, c'est de voir comment chez Freud, dans la psychanalyse freudienne, il y a un défaut majeur qui est la négation de l'histoire. C'est-à-dire que si j'ai un problème, parce que je peux avoir un problème dans les relations avec ma mère ou avec mon père, mais on peut peut-être aller le chercher ailleurs que dans un complexe d'Œdipe artificiellement plaqué sur ce qui m'arrive. Peut-être que c'est lié à mon histoire. Peut-être que j'ai eu une enfance malheureuse ou heureuse ou de travers pour telle et telle raison. Et ça, c'est le cas de chacun d'entre nous qui a sa propre histoire. Et si on s'intéresse plus à ce qui nous est arrivé en tant qu'individu, il est probable qu'on arrivera plus facilement à trouver les clés si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous voyez, ça, c'est une première approche. Alors, comme j'étais très, très critique, là, sur Freud, je voudrais quand même dire qu'il lui rend au moins deux choses qu'il a mis en évidence. Et faut pas oublier aussi que Freud, il a une qualité, c'est celle d'être un immense écrivain. C'est la plume de Freud. Enfin, moi, je sais que je l'ai toujours lu comme... d'abord comme quelqu'un qui m'emmenait ailleurs comme un écrivain le fait avec de la fiction. Je pense au début d'un livre qui s'appelle j'oublie le titre.
Ça va vous revenir. Va vous revenir. On va parler d'autre chose et tout d'un coup ça va vous revenir.
Je voulais juste citer cette phrase de Freud qui elle m'est revenue en mémoire. Ce n'est pas parce qu'il chante en chemin que l'aveugle y voit plus clair. c'est magnifique. Dans Symptômes, symptômes, angoisse et inhibition.
Okay.
Voilà, c'est au tout début. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut reconnaître à Freud deux choses. La première, c'est d'avoir mis en évidence quelque chose, alors qui, je crois, est assez une chose commune aux hommes et à l'humanité, c'est la pulsion de mort. Cette pulsion qui s'exprime en nous, en tant que collectivité. Dieu sait qu'il y a des exemples depuis que l'homme est constitué.
Et est-ce qu'il en est question dans le livre aussi beaucoup de
bien
de
entendu,
cela
bien
c'est
bien
ça,
entendu,
hein, on parle vraiment de chapitres importants. Quoi.
C'est ce qui fait d'ailleurs l'honnêteté de ce livre. C'est que ce n'est pas du tout uniquement une démolition de principes. C'est vraiment un travail à la fois, je dirais, de philosophe, d'écrivain et d'historien. Et puis, là aussi, l'inconscient. L'inconscient, on sait que personne ne l'a jamais vu et qu'il est difficile d'en parler autrement qu'avec un certain nombre de mots sur lesquels on peut être critique. Néanmoins, la façon dont Freud donne à l'inconscient son importance dans les comportements humains, ça, on doit le lui laisser. C'est vraiment lui qui en est le père. Mais il y a des choses absolument troublantes dans sa correspondance avec Frisch, la façon dont il explique qu'il n'a jamais guéri personne, que les séances d'analyse, c'est de la foutaise, que tout ça, ça lui rapporte l'équivalent. À l'époque, c'était à peu près l'équivalent de $400 d'aujourd'hui, une analyse avec Freud. Il explique qu'il dort la moitié du temps. Enfin, c'est absolument atterrant. Et puis, il ne faut pas oublier les sympathies quand même assez douteuses de Freud, qui dédie un de ses livres à Mussolini, qui essaye de... qui n'est pas du tout un juif persécuté, du moins au début. Il s'entend très, très bien avec Goebbels. Il essaye de voir comment la société psychanalytique de l'époque peut avoir pignon sur rue dans l'Allemagne fasciste. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut mieux se documenter avant de penser que Freud est un grand humaniste au service de l'humanité qui lui a apporté les clés de son bonheur à travers sa pratique et sa doctrine. C'est assez faux et je pense que c'est un livre salutaire. On y apprend énormément de choses et puis on est obligé de se remettre en question soi-même et de constater comment bien souvent eh bien, on peut être abusé.
Alors, lisant ce livre, mes amis, vous m'avez vraiment donné le goût, Éric de Belval. Je vous rappelle le titre « Le crépuscule d'une idole », disponible au SQLA, bien évidemment, de Michel Onfray. Je vous appelle Onfray, O-N-F-R-A-Y. Éric, vous restez avec nous parce que, en seconde partie de cette émission, nous allons parler de votre livre, Incision.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Et notre invitée spéciale, je vous le disais en ouverture de cette émission, c'est Mélanie Vincelette. Bonjour Mélanie.
Bonjour Clotilde.
Vous êtes une auteure extrêmement appréciée par nos auditeurs, par les lecteurs, par les gens qui vont se procurer ces livres audio. Trois de vos quatre livres ont été enregistrés ici. Je veux parler de Poligny, je veux parler de Qui a tué Magellan et de Cri Morticole. Moi, je vous connaissais mal, honnêtement. Je vous ai connu grâce au festival Métropolis Bleu. Alors, du coup, je me suis un petit peu plongée dans votre littérature et j'ai compris pourquoi les gens vous aimaient. J'ai aimé cette écriture qui se rapproche d'ailleurs de ce que fait peut-être M. Trudel. Parce que j'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas de comparaison possible, mais on comprend pourquoi vous aimez M. Trudel dont vous allez nous parler. Vous écrivez depuis quoi? Toujours, Mélanie Vincelette? Vous écrivez depuis...
C'est
en vous depuis...
J'ai été élevée dans une cabane en bois rond dans les Laurentides, dans la forêt boréale. Puis mes parents avaient vécu comme un genre de retour à la terre. Donc, ils voulaient vivre une vie plus naturelle. Mon père portait un collier en dents de caribou pour les occasions spéciales comme Noël, puis les funérailles, puis des trucs comme ça. Moi et mes frères, on avait toujours honte de ça. Ils se prenaient pour un Amérindien. Ils marchaient dans la forêt nu-pieds, tout l'été, avait de la gomme de sapin sous ses pieds à la fin de l'été. Donc, il vivait le rêve, justement, de retourner dans la forêt. Puis nous, en tant qu'enfants, c'était terrible. Mon frère voulait un Nintendo, il recevait un fumoir à truites pour Noël. Je voulais aller magasiner des robes avec ma mère dans des centres d'achat, puis elle m'amenait identifier les champignons dans la forêt. Donc, toutes ces choses-là ont fait en sorte que j'étais, dans le fond... sans le vouloir, un peu une ermite. Donc, tout ce que j'avais, c'est mon petit cahier à dessiner, mon crayon de plomb, et je dessinais la feuille de rhubarbe qui venait de naître au printemps, et j'écrivais un peu la sensation que ça me faisait. Donc, j'ai toujours un peu écrit comme ça. Mais en même temps, dans cet environnement naturel-là, derrière chez nous, il y avait un homme qui était un ancien recteur de l'Université de Toronto à la retraite, un professeur d'économie, puis c'était un esthète, un homme qui passait ses journées à lire des livres, à écouter de l'opéra pendant que sa femme clouait les bardeaux sur le toit de la maison. Donc, lui, il me donnait des livres, puis il me racontait des choses. Il avait vécu la guerre. Il était quand même assez âgé. Quand je l'ai rencontré, il avait comme 70 ans, quelque chose comme ça. Il me racontait des histoires extraordinaires de sa vie, puis tout ça. Puis c'est lui qui m'a initié un peu à la littérature. Donc, tout ce que j'avais, c'était cet environnement naturel-là et les livres. Donc, j'ai eu envie d'écrire, mais j'ai aussi envie de représenter tous ces personnages qu'il y avait dans ces endroits-là, qui étaient des marginaux, qui étaient des hommes incroyables, qui vivaient une vie autre, si on veut. Donc, cet homme qui était, dans le fond, le professeur d'université, était un peu un mentor pour moi. Puis même son modèle de vie était extraordinaire. Quand il a eu 80 ans, sa femme était décédée depuis un bout de temps. Il s'est remarié avec une ancienne danseuse de ballet, des grands ballets canadiens, qui était elle aussi à la retraite, mais qui avait peut-être 10 ans de moins que lui.
Sa vie est un roman.
Oui, c'est ça. Puis il a voyagé partout à travers le monde. Ce mariage-là a duré 7 ans. Je veux dire, la vie est possible. Les choses sont extraordinaires quand on voit la vie avec ces yeux-là. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai voulu écrire des romans. Et mon premier roman... Cri Morticole, donc, est énormément inspiré de cet univers-là, si on veut. Dans la maison où on était, elle était infestée de chauves-souris. Puis on n'a jamais... Ça nous a pris 10 ans avant de réussir à ne plus avoir de chauves-souris, mais c'était terrible parce qu'on dormait la nuit, puis elles étaient dans l'entretoit, mais parfois, il y en avait une qui s'échappait puis était dans la maison. Tout ça. Donc, c'était vraiment un endroit d'horreur.
Un traumatisme, certes.
En même temps, c'était... J'aurais pu écrire la saga Twilight, mais non, c'est pas... Je le regrette énormément. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, je regarde ça avec d'autres yeux, si on veut. Mm-hmm. Donc, je me rends compte que... Ça a été une vie un peu spéciale. Ça m'a donné justement accès à des choses extraordinaires. Puis, mais pendant très longtemps, j'ai voulu faire me sortir de ce milieu-là.
Je suis
allée très longtemps à l'université. J'ai fréquenté les gens là-bas. J'enseignais à McGill. Puis tout d'un coup, j'ai eu comme une genre d'épiphanie. Non, dans le fond, tous les gens que j'ai rencontrés qui étaient comme des camionneurs, des gens qui travaillaient dans les mines, tout ça, avaient des histoires et des anecdotes extraordinaires à raconter.
Qui peuplent vos livres? Vous avez l'impression que toutes ces histoires-là ont nourri énormément les pages de vos...
Oui, j'ai rien inventé, toutes ces choses-là. Puis ça paraît très rocambolesque quand on lit mes romans, mais d'une certaine manière, toutes ces choses-là sont vraies.
Alors, parlons-en de ces romans un petit peu. Évidemment, vous savez, bon, là, il nous reste à peu près peut-être un 6-7 minutes, oui. Et vous en avez 3 en ce moment qui sont disponibles. Si par exemple, est-ce qu'on peut se livrer à l'exercice? Si je vous dis, par exemple, Poligny, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent vont aller chercher en se procurant Poligny?
Poligny, c'est un roman que j'ai écrit en hommage à mon frère qui travaillait sur l'île de Baffin. Donc, il est cuisinier dans une mine d'or, puis tout ça, il me racontait plein d'histoires extraordinaires. Je me suis dit, mon Dieu, on ne connaît pas ces endroits-là. Mm-hmm. C'est fou, toutes les choses qu'il vivait. Puis en même temps, moi, je suis très proche, dans le fond, de la nature, mais à travers la gastronomie aussi, parce que quand on vivait dans le bois, on pêchait la truite à l'épuisette, mm-hmm. puis on mangeait des bleuets, puis des mûres, puis des trucs comme ça. Donc... À travers l'expérience de mon frère, j'ai voulu inscrire la gastronomie puis inventer une genre de gastronomie arctique, si on veut, ou reliée au terroir. Et dans le fond, il y a une certaine pauvreté là aussi qui est reliée à ça. Mais inventer des choses qui étaient, disons, à nous à travers ça. Donc, dans Poligny, je mets en scène l'île de Baffin. Donc, il faut pas... C'est sûr que tout le monde... Personne ne comprend. Le nord du Québec, c'est le Nunavik. Mm-hmm. Donc, ça, il y a 7 villages inuits qui sont là. Et dans le nord du Canada, il y a le Nunavut, qui est un territoire indépendant. Puis tout le monde confond ces choses-là. Donc, l'île de Baffin, c'est dans le Nunavut. Puis c'est un endroit où il n'y a pas vraiment de loi, si on veut. Les voitures ne sont pas nécessairement immatriculées. Les gens ont... On adopte des enfants de façon un petit peu conviviale, comme ça. Les choses ne sont pas inscrites, si on veut, comme ça peut l'être ici dans le sud. Donc, même les frontières ne sont pas réellement définies. Il y a des paquebots allemands qui accostent dans des petits villages comme ça, puis il n'y a pas de douane, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'infrastructure. Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie de chez nous, mais ça reste assez inconnu.
Donc, Poligny, l'Arctique.
Oui.
Si je vous dis crime horticole, et là, je vais vous faire un gros, gros exercice. En une minute, qu'est-ce qu'on va trouver dans crime horticole? non, mais ce que je veux dire, c'est l'ambiance, évidemment, vous m'aurez compris.
Mais crime horticole, j'en ai parlé un petit peu quand j'ai parlé de la cabane au Canada, mais sinon, dans mes recueils de nouvelles, c'est beaucoup mon expérience en Asie du Sud-Est qui est intéressante dans Créature Magellan puis tout ça. La première fois que j'ai embrassé un garçon, j'ai pensé à Marguerite Duras parce que j'étais tellement marquée par le livre L'Amant que par la suite, j'ai voulu comme... J'étais déçue un peu, puis j'ai voulu aller voir ce que c'était là-bas. Donc, ça, c'est mes expériences
D'accord.
en Asie du Sud-Est.
Et le troisième, qui a tué Magellan? Ça aussi, ce sont des nouvelles.
Oui, c'est ça. C'est des nouvelles un petit peu orientales qui dans le fond, sont plus littéraires qu'autre chose. Chaque petite nouvelle est reliée à un sentiment amoureux. C'est un petit peu des trucs de cet ordre-là.
Et c'est signé Mélanie Vincelette. Et Mélanie, vous vous êtes prêtée au jeu parce que c'est toujours ce que je demande aux gens qui se présentent ici, c'est quand ce sont des auteurs, ils nous présentent un peu ce qu'ils écrivent, mais aussi ils nous présentent quelqu'un d'important pour eux, un livre important pour eux. Vous avez choisi un livre de Sylvain Trudel.
Oui, Sylvain Trudel, de prime abord, j'entretiens une correspondance avec lui, je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est une personne extrêmement fascinante. C'est un être à part, je pense. Avant tout, Sylvain Trudel, il vit à Québec, mais il a une vie un peu monastique. Tout ce qu'il fait, puis c'est drôle, la première fois qu'il m'avait écrit, il m'avait expliqué ça, il dit « Bon, ce que je fais dans une journée, c'est que j'écoute France Culture, je fais de la révision de livres, puis je vais nourrir les ours à la réserve du Cap Tourmente.
» Bon,
c'est quand même assez original.
Oui, c'est le moins qu'on puisse
mais
dire.
Mais encore plus...
C'est pas la vie à tout le monde.
Quand il va au Cap Tourmente, des fois, il m'envoie des photos de ce qu'il a amené pour les ours. Donc, c'est comme un genre de buffet gastronomique. Là, j'ai une photo, justement, ici, que je peux vous montrer. Il fait ça parce qu'il veut observer les ours. Donc, il amène des gâteaux carottes, des trucs comme ça. Donc, ça fait en sorte que, par la suite, il peut les filmer et en prendre des photos. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, ça, c'est une facette de sa personnalité qui est assez incroyable. Mais surtout, c'est un très grand écrivain parce que c'est... Ces livres ne reposent pas sur l'histoire en tant que telle. Bien que le livre « La mère de la tranquillité » soit un recueil de nouvelles, chaque nouvelle est un peu un petit roman, mais en soi, c'est presque des prières, parce que c'est très littéraire. Ça repose sur les mots, puis sur les sensations qui sont reliées aux mots.
Vous avez un petit extrait peut-être à nous proposer pour qu'on vous suive encore mieux.
Donc, c'est un extrait de la nouvelle éponyme du recueil. « Pendant que le monde célèbre dans le bruit, tout autour de moi, des fêtes de rien. » J'attends, je ne sais quoi, je ne sais qui, le rhume au nez et le froid aux trousses. Écoutez, à la lisière du monde, l'estomac dans les talons, j'espère n'importe quoi, un signe providentiel du firmament, un météore sacré, une étoile des mages qui me guiderait dans la nuit, ou une nuit d'oiseaux de bon augure qui s'envolerait à tire-d'aile vers l'horizon des hommes heureux pour me révéler mon sort à venir. Donc, il y a une genre de mythologie familiale qui est inscrite dans ce recueil de nouvelles-là. Entre autres, il y a un enfant qui est enterré dans un étui à violon. Il y a un enfant qui naît sur une feuille de papier journal qui lui imprime sur les fesses une avalanche de mauvaises nouvelles. Il y a une mère qui est aux prises avec un bébé qui hurle depuis la naissance, puis sa belle-sœur, qui est un peu terrible, lui donne un conseil. Mets-le au four 15 minutes à 100 degrés Fahrenheit, ça va le calmer un peu. Donc, c'est un univers en clair-obscur,
si on veut. Oui, oui.
Donc, il y a toujours une genre d'angoisse sous-jacente dans les textes, mais en même temps, une beauté extrêmement... lumineuse qui se retrouve dans chacune des nouvelles. Je pense qu'il a remporté le prix du gouverneur général pour ce texte-là. Du moins, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi pour ses... Il a écrit des textes jeunesse qui sont incroyables. Sylvain Trudel, c'est vraiment quelqu'un...
Autrement dit, quand j'ai lu une critique à un moment donné d'un de vos lecteurs sur un site Internet qui écrit le vocabulaire « un univers éclaté et éclectique », un style qui m'a tout de suite plu en parlant de votre littérature, me rappelant Régent Ducharme et Sylvain Trudel.
Oui, c'est incroyable.
Ça doit vous toucher beaucoup. Puisque vous parlez de prix, j'ai quand même oublié de dire que vous aussi, vous avez été primé. Si j'arrivais à retrouver mon petit papier, voilà, il est là. Vous avez remporté, Mélanie Vincelette, le prix du jeune écrivain francophone 2003. Le prix Adrienne Choquette en 2005. Vous avez été finaliste au prix des libraires 2005 ainsi qu'au prix France-Québec 2006. C'est quelque chose. Et en 2007, vous avez remporté le Grand Prix littéraire Radio-Canada ainsi que le prix Anne Hébert. Et vous dirigez, c'est depuis 2001, les éditions Marchand de Feuilles ainsi que la revue littéraire Zingue. Hein, voilà quelqu'un de bien occupé et de... J'espère vous avoir donné le goût à toutes et à tous de découvrir, comme je l'ai moi-même découverte, Mélanie Vincelette, qui était mon invitée aujourd'hui à l'émission Un livre découvert. Je voudrais vous rappeler les titres disponibles de Mélanie. Il s'agit de Poligny. Il s'agit de... Vous allez m'aider, Magellan.
Qui a tué Magellan.
Et puis Crimes horticoles. Voilà. Mélanie Vincelette, c'était bonheur de vous recevoir aujourd'hui et j'espère vous recevoir à un autre moment, pourquoi pas, parce qu'on n'a absolument rien contre le fait que les gens ont le droit de revenir en deuxième semaine.
Merci beaucoup.
Je vous remercie, Mélanie Vincelette. Au revoir.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Alors, j'alterne. Et cette semaine, j'ai choisi un classique, le classique des classiques. J'ai choisi Pélagie la charrette d'Antonine Maillet. Je me souviens, moi, j'ai un souvenir de ce livre-là qui a quand même, faut-il le rappeler, a été pris Goncourt en 1979. C'est pas rien. Je me souviens d'avoir offert ce livre-là à mon père quand il était sorti. Et c'est l'un de mes premiers rapports au pays, mais surtout, bon, aussi, évidemment, à l'Acadie. Mais c'est un des livres qui m'a énormément touché à l'époque où j'habitais encore de l'autre côté de l'Atlantique. Et qu'à l'époque, d'ailleurs, j'ignorais qu'un jour, j'allais poser les valises ici. Mais vous savez, ce sont ces gens comme Antonine Maillet, comme Claude Gauthier ou Claude Léveillé qui ont été importants dans ma vie, me suis dit c'est quand même normal que je lui rende cet honneur. Pourquoi ne pas retourner dans les pages de Pélagie, La Charrette? Est-ce que c'est un livre que vous aviez lu, Mélanie Vincelette,
oui,
quand vous étiez jeune? Éric de Belval, est-ce que vous avez lu Pélagie?
À ma grande honte, non, mais vous m'avez terriblement donné envie de le faire.
Ah non, mais écoutez, moi, il y a tellement de classiques que je n'ai pas lu. Même parmi ceux que je vais présenter, je les cite aussi pour moi-même me replonger dedans. Non, il ne faut pas avoir honte de ça. Avant de vous parler de ce livre-là, j'avais rencontré Antonine Maillet à la soirée bénéfice de Vues et Voix l'an dernier. Et elle avait tenu à nous dire pourquoi elle avait voulu à tout prix se déplacer à cette soirée bénéfice-là de Vues et Voix.
Je suis Antonine Maillet. Et je vous dis pourquoi je suis là ce soir à Vues et Voix. C'est que tout ce qui est humain m'interpelle d'une manière même plus que l'humain, tout ce qui est création. Or, quand je vois qu'il y a des gens qui ont, c'est même pas un handicap, mais qui ont quelque chose qui manque dans leur vie, ça peut être une jambe, ça peut être un œil, ça peut être une oreille, mais quelque chose qui fait qu'il faut compléter ça. Que ces personnes-là puissent jouir d'une façon complète et totale des beautés de la création. Alors, je voudrais aider à la compensation pour que ces gens qui n'ont pas Dieu, par exemple, puissent entendre le livre et d'autres qui n'ont pas d'oreille puissent voir le livre. Alors, j'aime que les personnes qui ont reçu un peu plus partage avec ceux qui ont un peu moins. Alors, je voudrais offrir mes livres, si les gens aiment mes livres, eh bien, dans leur langue, ou dans du braille, ou bien dans de l'audio, pour ceux qui ne voient pas. Alors, c'est pour ça que je suis là ce soir, pour ajouter ma petite goutte dans l'océan des difficultés de la vie.
Chère Antonine, et c'est aussi pour ça que je vous ai choisi aujourd'hui. Rappelons un petit peu de quoi il s'agit dans Pélagie la Charrette. Chassée par les Anglais en 1755, il s'agit d'une veuve devenue esclave en Géorgie qui décide de revenir en Acadie avec ses enfants. Et elle est rejointe par d'autres exilés et on suit là son odyssée de toutes les amours, de tous les dangers qui va durer 10 ans, de Charleston à Baltimore en passant par les marais de Salem. Pélagie et son peuple, croiseront les Iroquois, connaîtront la guerre d'indépendance américaine, souffriront la haine des protestants de Boston et un hiver rigoureux avant de regagner leur terre promise. Alors, on ne sait ce qu'il faut admirer le plus de cette épopée. Est-ce que c'est la langue d'Antonine Maillet, ce français ou l'héroïsme d'une femme incarnant le courage de nos lointains cousins? En tout cas, une certitude par son humour, sa ferveur. Pélagie la Charrette est un chef-d'œuvre à rire et à pleurer. Retournez dans les pages d'Antonine Maillet. Je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seille et ses invités à l'émission Un livre découvert sur Canal M. On fait une toute petite pause et on se retrouve tout de suite après avec notamment Éric de Belval qui nous revient.
À livre découvert avec Clotilde Seille et ses invités.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. Un simple mousse, la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant, tout allait bien. Je ne risque pas. garde à vue, le pas vers la bavure. J'aime lire les histoires de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
J'aime lire de M. Albin de la Simone sur les ondes de Canal M à l'émission À livre découvert. C'était vraiment la chanson idéale pour aujourd'hui. L'émission se poursuit avec des retrouvailles, puisque l'ami Éric de Belval, qui était déjà là en première demi-heure, est encore avec nous, et ce n'est que plaisir. Mais cette fois-ci, c'est à l'auteur que je vais m'adresser, et au lecteur aussi, parce que dans ce cas-ci, Éric, vous avez lu en cabine, donc ici à voix haute, votre livre. Oui, d'abord, oui. Avant de parler de votre bouquin, est-ce que c'est une expérience facile, difficile ?
C'est une expérience enrichissante parce qu'on s'aperçoit que d'abord, on aurait peut-être dû écrire certains passages différemment. Enfin, on se plaît à se dire, bon, sans comment j'ai pu faire cette phrase-là, elle est bancale. Et puis, la transition, là, ça devrait être mieux. Enfin, c'est une invitation à faire mieux. Et en ce sens, c'est très enrichissant.
Mmh. Donc, autrement dit, c'est un exercice qui prend beaucoup d'humilité.
Absolument. Je suis sûr que si on faisait deux ou trois lectures, eh bien, ça continuerait, ce processus-là continuerait.
Ah oui. Donc, vous auriez changé beaucoup de choses à ce livre, Incision ?
J'aurais insisté sur un certain nombre de choses. J'aurais creusé des thèmes qui sont dans le livre.
En attendant, parlons-en de ce livre qui c'est une nouveauté, hein, parce que ça fait seulement deux, trois semaines qu'il est disponible au SQLA. Incision, on est dans le milieu chirurgical, on est avec un neurochirurgien, parlez-nous de ça.
Absolument, on est avec un neurochirurgien qui va être confronté au problème de l'erreur. Alors, le problème de l'erreur dans le milieu médical, c'est un tabou parce que, évidemment, ça fait peur. Et ça fait peur autant à ceux qui la subissent qu'à ceux qui la provoquent, bien évidemment. Et c'est ce que j'ai voulu raconter, comme intrigue. Mais au-delà de l'intrigue, c'est une exploration sur le doute, sur l'incertitude, sur tout ce qui fait qu'il nous est difficile de comprendre nos vies, il nous est difficile d'être confrontés aux épreuves qu'elles nous apportent, y compris dans des domaines aussi, à la fois fragiles et exigeants que la médecine, puisque là, la vie et la mort sont en jeu. Et bien évidemment, si vous êtes en situation de malade, et particulièrement de maladie grave, exposé au bistouri d'un chirurgien, eh bien vous attendez par principe à ce qu'il y ait une sorte d'exactitude, une sorte d'absolu qui va éviter de tomber dans des zones à risque. Et bien pourtant, c'est ce qui arrive. Alors, ça, c'est un des grands thèmes. L'autre thème, si vous voulez, c'est la façon dont la médecine emporte celui qui la pratique très très loin dans sa vie. C'est-à-dire que si on veut faire ce métier à fond, ben on ne fait que lui. Et très souvent, on le fait au prix d'une autre vie qui peut être sa vie sentimentale, ce qu'on partage avec une femme, avec des enfants. Et on peut être amené à les oublier, à oublier leur existence même. Alors, il y a ces deux parallèles qui se déroulent le long du livre. Et puis, il y a ce rappel permanent après que ce médecin, à la suite d'une erreur d'intervention, a tué une patiente. évidemment, n'ait pas été inquiété à cause de cette erreur, puisque personne ne s'en est vraiment aperçu. C'est quelque chose qu'il porte en lui, qu'il va être obligé d'assumer. Et ça va se compliquer parce que à la fois, il est persuadé d'être le meilleur dans sa spécialité, ce qu'il est vraiment. Mais en même temps, les choses avancent en dehors de lui. C'est-à-dire qu'à un moment, il va arriver dans les blocs opératoires les robots chirurgicaux qui sont une réalité, qui existent et qui vont imposer une autre façon de travailler que lui réfute parce qu'il pense qu'un chirurgien, comme dit l'étymologie du mot chirurgien, chirurgia, qui en grec signifie celui qui travaille de ses mains et la chirurgie, c'est un artisanat. Eh bien, lui, il veut défendre ça. Il pense que c'est d'abord un couseur, c'est d'abord quelqu'un qui s'est tranché, qui s'est coupé, qui sait être habile de ses mains, qu'aucun robot ne peut remplacer. Pourtant, un robot, il a la capacité de ne pas frémir, d'être capable de cautériser rapidement. Donc, il y a là deux logiques qui s'affrontent et qui se compliquent. Et puis, une autre transversale dans le livre, c'est que le médecin sera exposé à la maladie. Il va lui arriver ce qu'on appelle le syndrome de Guillain-Barré. Il va tomber en aphasie, il va perdre la parole, il va se retrouver dans un lit d'hôpital et il va devoir apprendre ce que c'est que la récupération. Donc voilà un peu les trois thèmes qui composent le livre.
Puis sans compter qu'en rentrant lui-même dans un lit d'hôpital, parce qu'il y a quelque chose moi que j'ai beaucoup aimé, c'est le rapport au patient. Parce qu'on a toujours, par exemple, là, je pense à ce monsieur à un moment donné qui disparaît, je ne me souviens plus de son nom. Bon, d'ailleurs, il l'appelle la tumeur au cerveau, et monsieur la traverse, je ne sais pas, en tout cas, peu importe.
Le Mercier.
Oui, c'est ça. Bon, et puis finalement, donc, il reçoit le message juste avant d'éteindre la lumière que ce monsieur est décédé, et cette nuit-là, il éteint la lumière et il dort à point fermé, quoi. C'est-à-dire que, non pas qu'il s'en fiche, mais je trouve que ça, c'est très, très bien écrit, ce rapport à la maladie, à la mort, qui n'est évidemment pas la même que pour la personne qui, elle, est au fond du lit et qui, elle, se voit peut-être disparaître. Alors, quand lui va tomber malade, j'imagine que la fragilité, le fait de changer de camp, ce sera important. Quand même.
Bien sûr, il va voir de l'intérieur ce qu'il ne voyait que de l'extérieur. Mm-hmm. Mais je veux quand même défendre cette obligation de dormir paisiblement après malade qui meurt, parce que sinon, tout fiche le camp.
Ah, mais absolument. mais d'ailleurs, quand je vous dis que c'est bien écrit, c'est justement pour ça. C'est que je ne le juge pas. On ne peut pas le condamner. Ah non, absolument. Au contraire, même, on est dans la réalité. De ces gens-là et c'est non au contraire et je vous en remercie de l'avoir écrit comme ça. Et puis alors évidemment sur le plan sentimental c'est pas fort non plus, pauvre Tichou avec sa femme, bah c'est ça.
Disons que c'est le contrepoint négatif de ce qui est positif dans sa vie.
Oui c'est ça, avec Cécile, bon qui est pas non plus une madame très très évidente, alcoolique, enfin vous remarquez on pense qu'elle l'est peut-être devenue aussi parce que on en dira pas plus mais y a plein de choses. Est-ce que vous avez un petit extrait à nous? Bah,
justement, et c'est assez étonnant que vous m'ayez parlé de la mort de Le Mercier, parce que c'est le passage que j'avais un peu prévu de vous lire. Vous voyez, il est là, je mens pas.
Vraiment.
Alors, le personnage qui s'appelle Schwartz, Thomas, est sorti en ville pour évacuer un petit peu toutes ses difficultés. Et puis, il décide, au lieu de rentrer chez lui, de repasser à l'hôpital. On est en pleine nuit et il va voir ce fameux malade qui s'appelle Le Mercier. Alors, il rentre dans sa chambre. Le Mercier tourna la tête, émit un sourire douloureux et acquiesça d'un battement de paupières. « Vous avez un peu mal, on va vous soulager, » fit Thomas, en vérifiant le poussoir de la seringue mécanique qui distillait un cocktail apaisant. « Tenez le coup quelques jours, tout se passera bien, » reprit-il en augmentant les doses à administrer sur la feuille placée au bout du lit. Le Mercier n'eut pas la force de remuer ses paupières ou ses lèvres. Tout en lui se refusait au monde extérieur. L'aiguille figée dans son avant-bras lui devenait étrangère, au-delà de l'irritation. Inévitablement, la mort prenait le relais. Sans doute, lasse d'être contenue, elle immobilisait les mécaniques d'acharnement qui tentaient de la retarder et venait fermer en silence les yeux d'un vieillard épuisé, dispensé d'activité la conscience d'un malchanceux désarmé, contredire le pronostic trop sec d'un praticien sûr de lui. Même les prétendus guéris, les recousus, les rafistolés, les soulagés, les désinfectés et les rassurés, ne s'en allaient que plus lentement, privés d'une partie de leur crédit vital, le sourire court, le doute quelquefois endormi sous la peau. Il leur restait toujours ce teint livide incrusté dans les miroirs accrochés au mur d'un domicile temporairement retrouvé lorsqu'on les renvoyait chez eux et qu'ils se remettaient à croire à l'éternité. L'hôpital est une zone de bricolage. On ne sait pas y faire du neuf. On n'y emploie pas le mot « guérison ».
Il n'y a que les malades pour s'y accrocher. Alors, il est guéri ? Quel soulagement pour Bernadette. Il sort demain, je crois qu'ils ont eu chaud. Les médecins ont été sensationnels. Il va se reposer un peu et moins picoler. Quand même, la cigarette, c'est fini, tu penses ? Étonnante, cette euphorie qui résiste à tout. Cette aptitude à planer au-dessus de l'odeur chlorée des services, cette crispation volontaire comme si on pouvait prendre la décision de vivre. Il s'est battu avec dignité. Quelle blague. Où est l'ennemi ? Je fixe mon cancer dans les yeux jusqu'à le faire reculer. Ça impressionne les cellules ? Ça ralentit le processus ? C'est bon d'en parler comme ça. Même ceux qui s'affranchissent des tours de passe-passe de la religion en ont besoin. Le silence n'est pas très facile à endurer.
La voix que vous entendiez était celle d'Éric de Belleval, auteur des lignes qu'il vient de nous lire, puisque auteur d'un livre qui s'appelle Incision au pluriel. Éric de Belleval, c'est en trois mots. Éric de Belleval, comme ça se prononce, B-E-2-L-E-V-A-L. Éric, on vous retrouve aussi tous les jeudis avec l'ami François. Tous les jeudis matins à l'émission Kiosque Magazine. Vous êtes aussi un spécialiste et un passionné d'économie, alors vous nous lisez tout ce qui s'écrit sur le sujet.
Et nous le commentons un peu avec François.
Ah oui, mais ça, faut pas le dire, parce que vous n'êtes pas censé, en principe, le faire.
On n'arrive pas à se réfréner.
Merci beaucoup. Donc, Éric de Belleval, auteur et également lecteur bénévole ici chez Vues et Voix. Merci Éric, au plaisir.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Et ça, c'est fou parce qu'on vient de parler de la maladie, de l'erreur et aussi forcément de la mort qui fait partie de ce livre Incision qu'a rédigé Éric de Belleval. Et là, je voudrais vous faire, en guise de bande-annonce, je voudrais vous parler du livre 5 méditations sur la mort. Autrement dit, sur la vie, c'est écrit par François Cheng, C-H-E-N-G, de l'Académie française, excusez-la, et c'est lu par Michel Gélinas. Oui, oui, Michel Gélinas, celui qui a créé avec Carmen Lepage l'émission Un livre découvert, et Michel qui sera mon invité la semaine prochaine. Je voudrais simplement vous lire la quatrième de couverture pour vous dire de quoi il s'agit, et ensuite on va écouter un extrait de ce livre tel que lu par Michel Gélinas. Donc, 5 méditations sur la mort. Comme ces 5 méditations sur la beauté, ce texte de François Cheng est né d'échanges avec ses amis auxquels le lecteur est invité à devenir partie prenante. Il entendra ainsi le poète, au soir de sa vie, s'exprimer sur un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Le voici se livrant, comme il ne l'avait peut-être jamais fait, et transmettant une parole à la fois humble et hardie. Il n'a pas la prétention de délivrer un message sur l'après-vie ni d'élaborer un discours dogmatique, mais il témoigne d'une vision de la vie ouverte, une vision en mouvement, ascendant, qui renverse notre perception de l'existence humaine et nous invite à envisager la vie à la lumière de notre propre mort. Celle-ci, transformant chaque vie en destin singulier, l'a fait participer à une grande aventure en devenir.
Cinquième poème. La mort n'est point notre issue, car plus grand que nous est notre désir, lequel rejoint celui du commencement, désir de vie. La mort n'est point notre issue, mais elle rend unique tout d'ici. Ces rosées qui ouvrent les fleurs du jour, ce coup de soleil qui sublime le paysage, cette fulgurance d'un regard croisé et la flamboyance d'un automne tardif, ce parfum qui assaille et qui passe insaisi, ces murmures qui ressuscitent les mots natifs, ces heures irradiées de viva, d'alléluia, ces heures envahies de silence, d'absence, cette soif qui jamais ne sera étanchée, et la faim qui n'a pour terme que l'infini. Fidèle compagne, la mort nous contraint à creuser sans cesse en nous pour y loger songes et mémoires, à toujours creuser en nous le tunnel qui mène à l'air libre. Elle n'est point notre issue. Posant la limite, elle nous signifie l'extrême exigence de la vie, celle qui donne, élève, déborde et dépasse.
sur le Requiem de Forêt, du moins la fin du Requiem de Forêt, une paralysum pour ceux qui souhaiteraient le savoir. Nous écoutions un extrait de ce livre, 5 méditations sur la mort de François Cheng, tel que lu par Michel Gélina, qui va venir nous le présenter à l'émission la semaine prochaine. Éric de Belval, vous connaissez François Cheng?
Oui, je voulais vous dire, Clotilde, à quel point la présentation que vous avez faite tout à l'heure était juste. Effectivement, j'ai eu l'occasion, il avait accepté de venir dîner à la maison il y a quelques années, et j'ai... Le souvenir de ce dîner, pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui savait écouter au point que quand il vous écoutait, vous aviez l'impression qu'il vous parlait.
Ah, mon Dieu. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. On poursuit l'émission. Vous savez que j'ai l'habitude d'associer des nouvelles avec des livres. Alors, c'est le temps de ce nouveau chapitre-là.
Des nouvelles et des livres.
Le prix Nobel de littérature a été remis il y a quelques semaines à Patrick Modiano, l'écrivain français. Je suis donc évidemment allé voir, j'en ai profité, je me suis dit, mais qu'avons-nous enregistré ici de Patrick Modiano? D'abord, revenons sur cet homme, prix Nobel de littérature, qui a été décerné jeudi à Stockholm à Monsieur Modiano. L'Académie suédoise lui a décerné ce prix pour son art de la mémoire, avec lequel il a fait surgir les destins les plus insaisissable, il fait découvrir le monde vécu sous l'occupation. Patrick Modiano est né en 1945. Il a remporté le prix Goncourt en 1978 pour son roman « Rue des boutiques obscures ». Et le jour où on a annoncé le fait qu'il avait reçu ce prix Nobel, Serge Truffaut, dans le Devoir, écrivait ce très beau texte qui s'intitule « Le Nobel de la mémoire ». Il dit « Les initiés à la chose littéraire nous corrigeront, mais mettons que si Joyce fut le Nobel du temps relatif, Faulkner celui du sang qui nous tiraille, Solzhenitsyn celui du goulag, Camus celui de l'absurdité du monde, Sartre celui de l'homme condamné à être libre, Morrison celui de la minorité et d'autres ceux des émancipations diverses, Modiano est bel et bien le Nobel de la mémoire ». De cette mémoire qui ne peut être une mise en abîme du quant à soi, puisque le chacun d'entre nous est un être forcément social. Bref, Modiano, c'est aussi le Nobel décerné à un humaniste. Vous êtes d'accord avec ça, Éric de Belval? Vous connaissez un petit peu l'œuvre de Modiano?
Oui, mais je dirais quand même que la mémoire, c'est plutôt pour Proust que pour Modiano.
Ah oui, mais... Je suis pas. Mélanie Vincelette, est-ce que vous avez déjà lu? C'est pas grave si vous n'en avez pas lu un de Patrick Modiano.
Il y a très longtemps, mais c'est pas un auteur que je fréquente beaucoup.
Eh bien, peut-être allez-vous avoir envie, en sortant de ce studio, de vous ruer sur ces livres-là. Je voudrais vous donner quelques titres que nous avons de Modiano. À l'INCA, par exemple, nous avons Remise de peine, nous avons Un pédigré, disponible pour vous. Nous avons Dimanche doux et Dans le café de la jeunesse perdue, qui est actuellement en traitement, mais qui devrait arriver et qui sera disponible très prochainement. Au SQLA, donc via BANQ, nous avons également quelques titres disponible de Patrick Modiano. Nous avons Accident nocturne, nous avons aussi L'herbe des nuits, et puis il y a en ce moment un traitement qui a été enregistré ici chez Vues et Voix de Six braves garçons. Il me semblait que j'avais noté quelque chose sur ce texte-là. De quoi s'agit-il, de Six braves garçons? Ah oui, il s'agit d'un collège, le collège de Valvert, surnommé le château en raison de son parc, de ses pavillons et de ses bois. C'est marrant parce que moi, tout de suite, l'image que j'ai, c'est le cercle des poètes disparus. Ce collège qui a pour pensionnaire deux braves garçons, plus ou moins abandonnés par leur famille, des gens riches ou ruinés, instables, cosmopolites, suspects. Ils y poursuivent leurs études en nouant des amitiés, soit entre eux, soit avec leurs professeurs tout aussi pittoresques. Puis la ville les disperse. 20 ans passent et grâce à sa mémoire en pointe sèche et sa curiosité, le narrateur, qui est peut-être Modiano lui-même, recompose l'atmosphère ancienne tout en menant une sorte d'enquête sur ce que le temps a pu faire de ses anciens camarades. Ses souvenirs rejoignent sans cesse le présent au fil d'une réalité faite de rêves et de nostalgie. Une critique? Où se situe exactement ce qui nous constitue? À quel moment précis notre avenir se dessine-t-il? L'identité de chaque héros se profile dès son adolescence dans ce collège paraissant hors du temps, quelque peu élitiste, une ville dans la ville qui conduira chacun vers un futur auquel nul ne s'attendait, mais dont les racines profondes se découvrent enfouies dès que cette vie commune d'un pensionnat chic, et est-ce qu'il me manquerait la fin d'une phrase, enfoui. Non, c'est ça. Ah, il me manquait un petit bout de phrase. Regardez si c'est bête. Une petite citation extraite de ce livre-là de Patrick Modiano qui, je vous le rappelle, sera disponible peut-être même qu'au moment où nous diffusons cette émission-là. Il est déjà disponible de six braves garçons. Une toute petite citation. Une enfant qui dort et quelqu'un qui veille sur elle, c'est quand même quelque chose au milieu du vide. Ben oui, c'est le genre de petite citation que moi j'aime beaucoup. Voilà, pour Patrick Modiano, je vais poursuivre avec, oh ben oui, dernier chapitre.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors oui, quelques nouveautés, ça vient juste de sortir en version audio pour vous. Pour les passionnés de baseball, tiens, je pense à mon ami Luc Fortin par exemple. Calico Joe, c'est de John Grisham. On parle là de Paul Tracy qui vit paisiblement à Santa Fe avec sa femme, leurs trois filles, jusqu'au jour où il apprend que son père, Warren, avec lequel il a rompu tout lien, est atteint d'un cancer incurable. Nous sommes à la fin des années 60. Ce monsieur Warren Tracy, joueur de baseball professionnel, le père a connu une brève heure de gloire dans la célèbre équipe des Mets de New York. Quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de sournois, qui a tristement marqué les annales du baseball en visant à la tête un fabuleux joueur en pleine ascension. Calico Joe, c'était lors d'un match crucial de 1973. Alors que va-t-il se passer entre le père et le fils alors que le père est mourant et que le fils n'arrive pas à lui pardonner ce geste impardonnable. Critique de presse ici, c'était sorti dans la presse, on nous avait dit « John Grisham est aussi efficace dans les intrigues du monde sportif que dans les thrillers judiciaires qui ont fait sa renommée et on ne peut quitter ce livre avant la dernière page. » Vous savez que j'ai l'habitude toujours de vous proposer un polar. Eh bien là, c'est pas tout à fait un polar, mais c'est comme un thriller quand même dans le domaine sportif. Une petite citation. C'est le père qui parle, qui dit « C'est ça la vie, ça fait partie du sport. Le joueur de football qui se brise le cou ou s'explose le genou. Le boxeur qui finit avec le cerveau en compote. Le pilote de Formule 1 qui se tue dans un accident. Le skieur qui finit dans un ravin, c'est comme ça. Il y a des accidents et quand ça arrive, on ne se met pas à pleurnicher et à demander pardon comme si on y pouvait quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça que je conçois le sport. » Un autre titre en rafale, c'est « Petit rien qui change la vie » de Anne-Marie Filioza et Gérard Gouache ou Gache, ça s'écrit G-U-A-S-C-H. Filioza, ça s'écrit F-I-2-L-I-O-Z-A-T. Quelques petits mots là-dessus, c'est juste, vous savez, quelques petits pas de marche, une mauvaise habitude qu'on abandonne, deux petites minutes de respiration consciente, un petit peu de culpabilité en moins, une petite touche de relaxation, et puis... Ce sont ces petits riens-là qui peuvent faire une différence. Mais est-ce que ça suffit pour aller mieux? Eh bien, oui, nous dit-on dans ce livre-là. Et je me dis que parfois, vous savez, on se réveille, on file pas. Je me dis, avoir un petit livre comme ça, au fond du sac à main, pourquoi pas? Écouter ça, puis se dire, oh tiens, c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Je pourrais peut-être aller prendre l'air. Allez, mets ton manteau, maman, et puis let's go, on sort faire un tour. Le cycliste de Tchernobyl, si vous connaissez ça, c'est de Javier Sebastian. On parle là d'un vieil homme hagard qui, entouré de sacs remplis de vêtements, est abandonné dans un self-service sur les Champs-Élysées. Ne les laissez pas me tuer, c'est tout ce qu'il sait dire. Voilà, ça c'est la prémisse à ce livre. Pripyat, ville fantôme, peut-être Pripyat, ville fantôme à 3 km de la centrale de Tchernobyl, dans les rues désertes, entre la grande roue toute neuve et les autos tamponneuses abandonnées, pas âme qui vive, sauf les Samosioles. J'y pense qu'on prononce ça comme ça aussi, ceux qui sont revenus dans la zone interdite. Laurenti Bakhtiarov chante des Miss Roussos devant la salle vide du cinéma-théâtre Proteus. Deux Américains givrés testent les effets de la radioactivité sur leur corps. Au cœur d'une apocalypse permanente, Vassia, le cycliste, croit entendre la possibilité d'une communauté humaine. Et puis, il y a cet homme qu'on a abandonné sur les Champs-Élysées. Voilà en gros tous les personnages qui sont développés dans ce livre-là et dont Libération a dit au moins en septembre 2013, il y a dans le cycliste de Tchernobyl quelque chose qui tient du tour de force, cette capacité à relier la centrale folle diffusant sa radioactivité et l'avenue prétendument la plus célèbre du monde, à faire tenir ensemble des mondes si différents, à fabriquer un roman de facture classique et cependant d'une évidente originalité. Ça s'appelle, je vous le rappelle, Le cycliste de Tchernobyl. Est-ce que j'ai un petit peu de temps peut-être ? pour vous rappeler que aussi disponible celui le titre de Alexandre Jardin, mes trois zèbres, trois hommes qui ont enchanté la vie d'Alexandre Jardin, autrement dit Sacha Guitry qui joue avec le réel, Charles de Gaulle qui le défie et Casanova qui en jouit. Au sujet d'Alexandre Jardin, je vais recevoir dans une prochaine émission Marie-Claude Lorty, journaliste critique à la presse, et elle aura l'occasion de nous en parler, elle qui l'a rencontré récemment. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier mes invités. Éric de Belval, merci mille fois pour votre présence.
Merci à vous, Claudine.
Et puis Mélanie Vincelette, auteure, qui est restée avec nous. Merci, Mélanie. Merci. Je vous rappelle que vos livres sont disponibles au SQLA. Merci de l'autre côté à Kamal Salifou, qui a mis en nom de cette émission, et à vous toutes et vous tous, lecteurs bien-aimés. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission des Livres Découverts. C'était Clotilde Sey qui vous parlait. Bonne semaine.